France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au début du XVIIe siècle, on pensait encore que le sang était produit en continu par le foie. C'est à cette époque que William Harvey est entré en scène pour battre en brèche cette conception et ainsi révolutionner l'histoire de la médecine et de la physiologie. À partir de quelles observations et de quelles expériences ce savant anglais a-t-il démontré que le sang circulait dans un circuit fermé, allant du cœur vers tous les organes et revenant au cœur? Comment cette découverte a-t-elle posé les bases de la cardiologie moderne? Science Chrono vous raconte aujourd'hui une histoire du sang, mais aussi une histoire du cœur. Bonjour François Boustany.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes cardiologue, historien, auteur du livre « La circulation du sang, entre Orient et Occident, l'histoire d'une découverte » paru aux éditions Philippe Ray. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de nous plonger dans le cœur de cette histoire de la médecine et de la physiologie, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons des femmes à la préhistoire et nous nous demanderons comment l'archéologie nous éclaire sur leur place et leur rôle. Avec en toile de fond une grande question, peut-on remonter aux origines de la domination masculine et du patriarcat? C'est ce que nous verrons avec la préhistorienne et archéologue Anne Augereau, qui publie aux éditions La Découverte un livre intitulé « Une préhistoire des femmes ». Mais avant cela, on parle comme tous les vendredis d'histoire des sciences et aujourd'hui d'une histoire pleine d'hémoglobine ou comment on a enfin compris le rôle du cœur dans la circulation sanguine au XVIIe siècle en Angleterre. François Boustany, pour comprendre les apports déterminants du médecin et physiologiste anglais William Harvey à cette histoire, il nous faut remonter dans le temps, remonter à l'Antiquité, au 5e siècle avant notre ère en Grèce. Il y avait un certain Hippocrate qui a posé les bases de la médecine occidentale. Quelle était sa théorie du sang et de la circulation du sang dans sa théorie à lui?
Hippocrate est à l'origine du passage de la tradition orale à la tradition écrite en médecine. Il est à l'origine du corpus hippocratique, une œuvre immense dont la rédaction a duré tout un siècle, à laquelle a collaboré plusieurs générations de médecins. Et pour ces médecins hippocratiques, en disséquant les animaux, parce que la dissection sur cadavre humain était interdite à l'époque, trouve le sang accumulé au niveau du foie, de la rate et des veines. Ils trouvent les artères vides, ne contenant que de l'air. Ils écrivent même « Ouvrez un ventricule gauche, il est vide comme un désert ».
Donc le cœur était secondaire.
Voilà, il n'y avait pas de sang dans le ventricule gauche. Donc ils en ont conclu que les artères conduisent l'air, que les veines conduisent le sang. Ils mettent le foie et la rate au centre de la circulation sanguine et dénient tout rôle au cœur.
Le continuateur d'Hippocrate, c'est bien sûr un autre grec qui, lui, œuvre en Italie, c'est Galien, lui va poser les bases, finalement, de l'enseignement médical dans tout l'Occident de cette antiquité tardive et puis du Moyen-Âge. Quelles observations il fait et sur quelles observations repose à lui sa théorie sanguine?
Alors, Galien a eu le mérite de montrer la présence du sang dans les artères. Il fait sa constatation en soignant les plaies artérielles des gladiateurs. Il était médecin de l'école des gladiateurs à Pergame, dans sa ville natale, en Asie mineure, avant de quitter Pergame pour aller à Rome, où sa carrière va se dérouler. Alors, il a eu le mérite de montrer la présence du sang dans les artères, mais pour lui, le sang était fabriqué au niveau du foie. Et donc, en bon logicien, et Galien était un grand logicien, il lui fait un passage du côté droit au côté gauche, parce qu'il voit sur le cadavre que le ventricule droit est connecté avec le foie, il voit que les artères sont connectées avec le ventricule gauche. Donc, passage du ventricule droit au ventricule gauche, faute de l'imaginer par les poumons, il va l'inventer de toutes pièces au niveau du septum interventriculaire, en imaginant des petits trous dans le septum par lequel le sang passait directement du ventricule droit au ventricule gauche.
Selon Galien, donc, finalement, le foie continue de produire le sang et le cœur, lui, est un aspirateur à sang.
Oui, alors, en plus, le sang fabriqué par le foie se déversait dans les veines pour Galien, pour aller irriguer les organes et disparaître en périphérie. Une partie seulement venait dans le cœur. Et là, elle se divisait en deux portions dans le ventricule droit. Donc, elle se divisait en deux portions. Une qui va dans les poumons pour irriguer les poumons à la manière d'un vulgaire organe et l'autre, elle venait dans le ventricule gauche, où elle subissait une combustion, donc il y avait une combustion, avec de l'air provenant des veines pulmonaires, et le fruit de cette combustion, c'était du sang chaud, écumeux, qui partait dans les artères. Il appelait ça esprit vital ou chaleur innée, donc c'était comme les termes romains, parce que pour les médecins de l'Antiquité, au moment de la mort, ils observaient le refroidissement des cadavres. Donc ils ont associé la chaleur à la vie, d'où esprit vital, chaleur innée. Et comme tout le monde le sait, quand il y a une combustion, il y a des déchets. Donc pour Galien, ces déchets sont éliminés par voie rétrograde du ventricule gauche, par les veines pulmonaires et les poumons. Donc si vous voulez, tout dans la circulation sanguine de Galien est logique, sauf que tout est faux. Alors. Et elle termine sa description en ajoutant, je pense qu'on peut rien ajouter à ce que je viens de dire. Il y avait ce côté sympathique des gens contents d'eux-mêmes.
Oui, bon, après, ce qu'il faut reconnaître à Galien, c'est la durée de vie de son travail. Pendant 14 siècles, finalement, il règne en maître, et on en parlera bien sûr des amendements qui ont été apportés à sa théorie, mais peut-être question, dans ce système galénique de la théorie sanguine, la place du foie est donc centrale. Comment le foie, selon Galien, produit-il du sang? Puisqu'on le rappelle, on n'est pas du tout dans un système circulaire, mais dans une production dirigée, continue, oui, du sang.
Bah, c'est-à-dire, c'était en observant, en faisant les dissections sur les animaux, ils ont vu que le foie, c'est à côté des intestins. Donc pour eux, les aliments arrivaient dans le foie, et là, elles se transformaient en devenaient du sang.
Voilà, les aliments, tout simplement, devenaient du sang liquide, tout de suite. Donc, je le disais à l'instant, François Boustany, cette théorie, elle dure pendant 14 siècles. Pour autant, c'est pas une théorie qui a été totalement figée. Il y a des médecins un peu partout, dans le monde arabe, mais aussi en Europe, qui ont repris cette théorie galénique et ils l'ont fait évoluer. On peut parler de ces amendements, de ces petites évolutions qui ont été apportées.
Il y a eu les invasions barbares, donc le mot de latin a été arraché à ses racines grecques et perd tout son héritage. Mais cet héritage n'est pas perdu pour tout le monde, il subsiste dans le monde arabe, en Orient, où il sera récupéré par les Arabes. Et à l'époque arabe, donc on va traduire le savoir grec, du grec en arabe par les Syriaques, et à l'époque arabe, il y a un médecin qui s'appelle Ibn Nafis, du XIIIe siècle, qui était originaire de Damas, qui travaillait au Caire, et il va publier un livre intitulé « Sharh wa Tashrih al-Qanun », le commentaire anatomique du canon d'Avicenne, parce que Avicenne, dans son canon, reprend toute la circulation sanguine de Galien. Et là, il dit, Avicenne a écrit que le septum est perméable. C'est faux, c'est archi-faux. Le septum est épais et imperméable. Aucune goutte de sang ne peut passer à ce niveau. Le sang est obligé d'aller du ventricule droit dans les poumons avant de revenir du côté gauche du cœur, et décrit ainsi la circulation pulmonaire ou la petite circulation.
Voilà.
Mais il va mourir, et sa découverte avec lui, puisque en cette fin du XIIIe siècle, le terroir arabe n'était plus porteur pour la science, et cette découverte, malgré son importance, aura peu de retentissement à l'époque.
Et pourtant, cette petite circulation, on la retrouve chez d'autres médecins, chirurgiens, anatomistes comme...
Au XVIe siècle, il y a deux médecins qui vont décrire. D'abord, c'est Michel Servet. Michel Servet, c'est un Espagnol qui vient faire des études de médecine à Paris, où il va exceller en anatomie. Mais ce qui intéressait Michel Servet, c'était ni la médecine ni l'anatomie. Ce qui l'intéressait, c'était la théologie. Mmh. Et à l'heure où Luther et Calvin voulaient réformer l'Église, lui, il veut carrément réformer le christianisme. Donc, il reprend une hérésie ancienne, l'hérésie arienne, qu'il va publier dans un livre intitulé « Christianisme irrestituo ». Et qui se fait l'intérêt de ce livre dans l'histoire de la médecine, pourquoi on en parle, c'est parce que sur 3 pages, il va décrire la petite circulation sanguine ou la circulation pulmonaire, mais pour ses besoins théologiques. Il dit « l'âme est dans le sang ». Pour comprendre comment l'Esprit Saint s'introduit dans la matière humaine, il faut d'abord comprendre comment le sang circule dans l'organisme et nous donne la circulation pulmonaire sans nous expliquer comment il a fait pour arriver à ses conclusions.
À l'époque, on parlait d'âme, on parlait d'esprit, on parlait pas du tout d'oxygène, et du reste, l'oxygène n'avait pas été identifié comme cette molécule vitale. On savait que le sang était vital, mais on savait pas vraiment pourquoi.
Ibn Nafis, déjà, il évoque les échanges entre l'air et le sang au niveau des poumons, mais sans comprendre le détail de ces échanges. Il a fait attendre Lavoisier, donc fin du XVIIIe siècle, pour comprendre que c'est de l'oxygène ou du CO2 qui se fait. Michel Servet, il sera brûlé pour ce livre, pas pour la découverte de la petite circulation sanguine, mais pour ce livre par Calvin à Genève, parce que c'était un livre hérétique. Et probablement, sa circulation du sang a eu peu de diffusion, parce qu'il a été marqué du sceau de l'hérésie. Son livre a été marqué du sceau de l'hérésie. Six ans plus tard, donc en 1559, un autre médecin, un Italien celui-là, Realdo Colombo, là on n'était plus dans la théologie, c'était un médecin, un grand chirurgien, successeur de Vésale à la chaire d'anatomie de Padoue, et là, après sa mort, ses enfants vont publier un livre intitulé la De Re Anatomica, qui reprend tout l'enseignement qu'il faisait de son vivant sur la petite circulation sanguine. Alors lui, contrairement à Servé, il nous donnait la méthode qu'il faisait, c'était des vivisections, c'est-à-dire ils ouvraient les animaux vivants, et c'était devant un parterre de notables qu'il faisait ça, et là, il venait couper la veine pulmonaire, et il montrait qu'il y avait du sang dedans, et il se moquait de Galien qui disait qu'il y avait des vapeurs et de l'air.
Alors on en arrive à notre personnage du jour, William Harvey, qui s'inscrit lui dans la continuité de ces médecins-là, et qui va se poser aussi des questions sur cette circulation sanguine. On peut peut-être le présenter, ce personnage-là, William Harvey, dans quel monde est-il né, où est-ce qu'il a étudié, quel est son parcours finalement avant de décrire son œuvre dont on va parler?
William Harvey est né en 1578 dans le Kent. Il fait des études à Cambridge puis à Padoue. Après deux années passées à Padoue, il revient à Londres où il est nommé médecin à l'hôpital Saint-Barthélemy, chercheur et enseignant au Collège de médecins de Londres.
Padoue, on a déjà entendu ce nom-là dans votre bouche, c'est quand même la Mecque pour la médecine à l'époque.
Tout à fait, c'était le haut lieu de la médecine en Occident. D'ailleurs, il y avait Vésale aussi avant qui était et il faut dire qu'à l'époque, il y avait l'Europe des universités puisque les savants se déplaçaient en fonction de leur notoriété. Et puis les élèves aussi, en fonction des savants, il y avait le même diplôme reconnu par le pape et la même langue, le latin. Donc il n'y avait pas des entraves, des frontières, ça circulait normalement.
Et c'est à Padoue que se forme William Harvey.
Il aura comme professeur qui va l'influencer beaucoup, c'est Fabrizio d'Acquapendente. Qui a décrit très bien le sens d'ouverture des valvules veineuses au niveau des veines, les valvules au niveau des veines. Mais toujours inféodé à Galien, il continue à croire que le sang va dans les veines vers la périphérie pour se consommer et disparaître. Même si ces valvules font que son nez en sens opposé, alors il donnait une explication, il disait que les valvules sont là pour éviter l'écoulement torrentiel du sang dans les veines vers la périphérie. Et donc c'est son élève William Harvey qui va relever l'erreur de son maître, et c'est sur cette intuition qu'il décrira la grande circulation sanguine, comme il le dira à la fin de sa vie. Deuxième apport d'Acquapendente, c'est qu'il va l'initier à l'anatomie comparée entre les espèces, et ça va être très important pour lui, pour faire sa découverte de la circulation
sanguine. Notamment dans sa méthode aussi, dans son approche qu'on va entendre tout à l'heure dans l'archive, son approche expérimentale. En 1628, donc, William Harvey écrit un texte fondamental qui s'appelle « Exercice anatomique sur le mouvement du cœur et du sang chez les animaux ». En latin, je vous le donne, c'est « Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus ». On le retiendra comme « de motu cordis ». Quel est le constat de départ de William Harvey dans cette œuvre fondamentale, quoique courte, je crois que ça fait à peine 80 pages.
72 pages réparties en 17 chapitres. C'est un de format qu'on peut facilement glisser dans la poche d'une veste. Et donc penser que toute la cardiologie moderne et les avancées thérapeutiques qu'on connaît aujourd'hui reposent sur un minuscule livre, il y a quelque chose d'émouvant là-dedans. Oui.
Quel constat il fait justement William Harvey? Quelles questions il se pose alors que à l'époque c'est pas facile de remettre en cause le commandeur qu'est Galien?
Oui. Puis d'abord, quand il commence à travailler sur, c'est le début du livre, en disant que j'ai pensé que cette mission est impossible, parce qu'il regarde, il voit le cœur qui apparaît, brusquement il disparaît, donc on ne sait pas comment les choses se passent, et c'est là qu'elle a cette idée de prendre des mammifères inférieurs, dont le cœur est plus lent, plus transparent, donc plus facile à observer.
Et puis, il introduit aussi une démarche assez scientifique. Il veut faire un calcul. Il dit, bon, bah, soit, si le foie produit du sang en continu, on va essayer de faire un calcul et de comprendre combien de sang il faut produire par demi-heure.
Alors, c'est pour, justement, c'est le cœur de la démonstration de la circulation du sang. Parce qu'on pensait que le sang, le foie était une fabrique intérissable, continue, qui fabriquait le sang qui partait dans les artères et les veines qui disparaissaient en périphérie. Et lui, pour montrer l'absurdité d'une telle hypothèse, il dit « Regardez l'orifice aortique, qui est entre le ventricule gauche et l'aorte. Cet orifice, il s'ouvre pour laisser passer le sang, il se ferme pour éviter que le sang revienne en arrière. » Et donc, il dit, si à chaque contraction du ventricule gauche, il y a une petite quantité de sang, alors il minimise exprès pour nous convaincre, au bout d'une minute, il y a 60 à 80 fois plus, c'est le nombre des battements du cœur. Au bout d'une heure, 60 par 60, on est à 3600, on est autour de 4000. Au bout de 24 heures, on est à 100 000. 100 000 battements, il dit, même si c'est des petites quantités, 100 000 fois, ça fait des quantités énormes, bien au-delà de toute la contenance du corps humain, bien au-delà de tout ce qu'on a mangé. Donc d'où vient ce sang? Ça ne peut être que le même qui repasse à chaque fois au niveau de l'orifice aortique.
On a fait le calcul avec Bruno Sansini de Science Chrono, parce qu'on s'est dit, attendez, mais si on fait ce calcul-là, du coup, il parle en drachmes mais en onces. Alors on a fait la conversion en litres, il faudrait que le foie produise autour de 20 litres par demi-heure pour que cette circulation, qui n'est pas une circulation, une production continue, fonctionne. Donc, pour bien comprendre l'importance de l'apport de William Harvey à l'histoire de la médecine et de la physiologie et à cette compréhension de la circulation sanguine, je vous propose d'écouter un extrait du livre qu'on mentionnait à l'instant, Demotu Cordis. La lecture vous est faite par Laurent Blanpin, c'est l'archive de Science Chrono.
Concluons en confirmant tous ces faits par un exemple auquel chacun croira, car on pourra le vérifier de ses propres yeux. Si on ouvre un serpent vivant, on voit pendant plus d'une heure le cœur se contracter, lentement, distinctement, et dans ses alternatives de raccourcissement et d'allongement, s'agiter comme un véritable ver, blanchir dans la systole, rougir dans la diastole. Nous voyons, en un mot, des phénomènes qui vont pouvoir confirmer notre supposition, car tous les mouvements se font longuement et distinctement. Et l'évidence de notre théorie apparaîtra au grand jour. La veine cave entre dans la partie inférieure du cœur. L'artère en sort à la partie supérieure. Si alors on intercepte le cours du sang un peu au-dessous du cœur, en saisissant la veine cave avec des pinces ou entre le pouce et l'index, le cœur continue à se contracter. Et en même temps, la partie comprise entre les doigts et le cœur se vide en peu d'instants, le sang étant attiré par la dilatation du cœur. Puis, le cœur blanchit lorsqu'il se dilate. Le sang lui faisant défaut, il paraît diminuer, battre avec moins de force et finalement mourir. Si au contraire on desserre la veine, le cœur se colore et s'agrandit. Si ensuite, laissant les veines, on lie les artères à une certaine distance du cœur ou si on les comprime, on les voit se gonfler énormément au-dessous de la ligature. Le cœur est distendu violemment et il prend une couleur pourpre. Il est si gorgé de sang qu'il semble être sur le point d'étouffer. Mais, si on desserre le lien artériel, on voit le cœur revenir aussitôt à son état naturel de coloration, de forme et de contraction.
Voilà cet extrait de Demotu Cordis de William Harvey. Finalement, il nous décrit là un garrot assez précisément, ce William Harvey. François Boustany, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette description-là et de même de la méthode de William Harvey?
Alors là, il y a deux expériences. La première, c'est qu'il va balayer une première erreur qui traîne depuis l'Antiquité. C'est qu'on pensait que le cœur était actif en diastole, que c'est là en se dilatant qu'il va aspirer le sang. Et lui, il va montrer que c'est l'inverse qui se produit, que c'est en se contractant qu'il va éjecter le sang. Donc, il est actif en systole. Et donc, il observe, c'est ce qu'il dit, que le cœur devient, quand il est actif, il devient pâle. S'il est pâle, c'est qu'il s'est vidé, donc c'est la systole. Et quand il se relâche, il devient rouge. Donc ça, c'est la diastole, le remplissage. Et la deuxième expérience, c'est qu'il va montrer le passage du sang des veines aux artères à travers le cœur. Donc il clampe la veine, il voit que le cœur devient pâle avant de s'arrêter. Après, il libère la veine, il clampe l'artère, il vient que le cœur devient rouge-rouge avant de s'arrêter. Donc, il conclut que le sang va de la veine à l'artère à travers le cœur. Et il nous dit, donc il pose ça comme un postulat, il dit ça, c'est vrai, dans toute la création. Donc, lui, il l'a démontré chez l'animal, chez le serpent.
Pourquoi le serpent, d'ailleurs, ça a son importance, oui, le fait que ce soit un animal à sang froid?
C'est quelque chose de très important. C'est que Harvey voulait démontrer la circulation pulmonaire, parce qu'elle était déjà décrite avant lui, mais le connaissant, il ne va pas se contenter à recopier ce qui est passé avant. Donc, il commence par nous dire, pour démontrer la circulation pulmonaire, il dit, il y a le poumon, il y a le cœur, il y a les quatre veines pulmonaires, il y a les deux veines caves, l'aorte, l'artère pulmonaire, tout est enchevêtré, on ne sait pas qui conduit quoi et comment le sang circule dans tout ça. Et puis, fort de sa culture d'anatomie comparée entre les deux espèces acquises chez son maître Aquapendente, il va effacer les poumons et se concentrer sur le cœur. Donc, il va chercher chez les animaux à sang froid, le serpent, qui n'ont pas de poumons. Et d'ailleurs, ils n'ont pas de ventricule droit. Parce que, comme on le sait, le rôle du ventricule droit, c'est d'envoyer le sang dans les poumons. Donc, pas de poumons, pas de ventricule droit. On se trouve avec un modèle très simple, celui d'une cavité, le ventricule gauche, avec deux vaisseaux, la veine et l'artère. Et à partir de là, il va montrer que le sang passe de la veine à l'artère. Et il pose ça comme un postulat, en même temps, c'est dans toute la création. Et après, il va le chercher chez l'être humain.
Et comment il va le chercher chez l'être humain, justement ?
Alors, qui est l'être humain qui n'a pas de poumons ? Qui est l'être humain qui n'a pas de poumons ?
C'est le bébé.
Enfin,
c'est le fœtus.
Le fœtus qui est oxygéné par le placenta maternel. Chez lui, le poumon ne marche pas. Et donc là, il nous dit, chez le fœtus, il y a le trou botal, qui est un trou au niveau du septum interauriculaire, entre l'oreillette, les deux oreillettes. Donc le sang arrive du placenta dans l'oreille droite. Il se divise en deux parties. Une qui passe par le trou de botal, dans l'oreille gauche, ventricule gauche, aorte. Et puis l'autre qui vient par le ventricule droit, artère pulmonaire, la déviation qui présente le canal artériel pour aussi aller dans l'aorte. Donc son postulat est validé, le sang va de la veine à l'aorte à travers le cœur. Mais à la naissance, le trou de Botal est fermé, il le constate sur la dissection. Le canal artériel est fermé, il le constate en cours de dissection. Donc la masse sanguine se trouve piégée au niveau des cavités droites. Or, il faut qu'elle aille dans les poumons. Comment aller dans les poumons ? Il n'y avait qu'une seule sortie, c'est l'artère pulmonaire. Et là, il nous dit, n'allez pas chercher des trous au niveau du septum. Ces trous n'existent pas. Et même si elles existent, elles sont tellement minimes que ça ne peut pas expliquer la quantité importante du sang qu'il y a dans le ventricule droit. Et une fois dans les poumons, là, il reconstitue le circuit en sens inverse. Mm-hmm. Il regarde, il voit que l'aorte est connectée avec le ventricule gauche, oreillette gauche, veine pulmonaire et les poumons. Et donc, il décrit d'une façon très élégante la circulation pulmonaire qui a été décrite avant lui par Rialdo Colombo, à qui il rend hommage. Il ne parle pas de Michel Servet. Il ne parle pas d'Ibn Nafis. Apparemment, il n'est pas au courant des travaux de ces deux auteurs, puisque la circulation sanguine d'Ibn Nafis a été marquée par le sceau de l'hérésie, comme on l'a dit. Elle a eu peu de diffusion. Et celle de Michel Servet. Et celle d'Ibn Nafis n'est pas passée en Occident au moment du grand mouvement des traductions qui était du 11e, 12e siècle entre le monde arabe et le monde latin par l'Italie du Sud et l'Espagne, alors que la découverte d'Ibn Nafis, elle est du 13e siècle. Et au XIIIe siècle, les Occidentaux se sont désintéressés de la science arabe.
François Boustany, donc William Harvey fait de cette circulation sanguine un réseau complexe de tuyauteries avec le cœur, au cœur justement de ce réseau-là. Il dit « Raisonnement et expérimentation ont établi que le sang traverse les poumons et le cœur, que par celui-ci il est envoyé à tout l'organisme, qu'il passe dans les porosités des tissus et dans les veines, qu'il revient par celle-ci, des extrémités vers le centre, pour aboutir finalement à l'oreillette droite du cœur. » Et il y a quelque chose de très impressionnant dans ce travail de William Harvey, finalement, on parlait d'anatomie comparée, on parlait de modèles animaux, on parlait de modèles humains, c'est qu'il pose finalement les bases d'une médecine expérimentale qui ne fleurira que bien plus tard, au XIXe siècle, avec Claude Bernard.
Oui, absolument. Son livre, c'est un exemple de modèle de la pensée scientifique. Il commence par observer. Il raisonne, il réfléchit, il fait des hypothèses qu'il vient valider par des expériences et il est un des premiers à introduire la quantification en médecine. Mmh. Alors, il fait des hypothèses, mais quand il fait des hypothèses, c'est pas comme Galien. Galien nous dit, je pense qu'on peut rien ajouter à ce que je viens de dire. Lui, il nous dit, tout ce que je vous dis ne vaut rien tant que je ne vous l'ai pas démontré. Et je vais vous le démontrer en faisant les expériences. C'est-à-dire, la raison, la rationalité est indispensable à la pensée scientifique, mais elle peut s'égarer si elle n'est pas validée par les expériences. Et c'est ce qu'il fait. Donc, à son insu, il va appliquer la méthode expérimentale qui sera théorisée par Claude Bernard à la fin du 19e siècle.
Quel est l'effet du Demo tu cordis dans l'Europe médicale ? Est-ce que c'est un coup de tonnerre ? Quelles sont les réactions, finalement, à la parution de cet ouvrage ?
Avec cette découverte, William Harvey bouleverse, en effet, notre conception du corps humain. Parce que, qu'est-ce qu'il a montré, William Harvey ? Il a montré que le système cardiovasculaire, qu'une affaire de plomberie, une pompe qui envoie du sang en circuit fermé dans l'organisme, et qu'il ne s'agit ni d'âme, ni de force mystique qui pousse le sang dans les artères et les veines comme on le pensait jusque-là. Et Harvey apparaît à la physiologie ce qu'est Galilée est à la physique. À partir de là, on peut comprendre la véhémence.
D'ailleurs, Galilée, il était prof à la faculté
à la même époque. Oui. Tout à fait. Alors, on peut comprendre la véhémence des réactions que cette découverte va susciter. Harvey est traité de charlatan, parce qu'on joue sur le mot circulator en latin.
Mais circulator en latin, ça veut dire charlatan.
Voilà, traité de charlatan, la circulation est jugée impossible, absurde, et nuisible à la vie de l'homme. Et pourtant, tout dans ce livre est vrai. Sauf une petite erreur qui s'est glissée dans le chapitre 15, où malgré qu'il a très bien montré que c'est une pompe, le ventricule gauche, il continue à situer la chaleur innée, et il va la corriger dans sa deuxième lettre à Riolan. Riolan, qui était un maître de la faculté de Paris, médecin de la mère de Louis XIII, Marie de Médicis, mais surtout qui était un fervent opposant à la circulation.
Oui, parce que la faculté de médecine, qui était un haut lieu pour la médecine européenne à l'époque, était très opposée à cette théorie apportée par
Jean Riolan et son élève Jean Patin qui était le doyen, et ils vont être ridiculisés par Molière dans Le Malade imaginaire avec Duafoirus. C'est-à-dire, pendant 33 ans après la découverte d'Harvey, les circulateurs suivant Harvey vont s'opposer aux anticirculateurs qui continuent à suivre Galien, jusqu'à ce qu'un médecin italien de nom de Marcello Malpighi met en évidence au microscope les capillaires pulmonaires imaginés par Harvey. Il va donner le coup de grâce aux anticirculateurs.
Qu'est-ce que ça apporte finalement comme vous le dites, comme coup de grâce
C'est un peu comme ce qu'on a vu récemment dans la physique quantique avec le boson de Higgs. C'est-à-dire, Harvey, il fait un modèle, il dit il y a des capillaires, il ne peut pas les voir parce qu'ils sont invisibles à l'œil nu, donc il arrive à en conclure par le raisonnement, par les expériences, il dit il y a des capillaires, des raccords entre les artères et les veines, il ne peut pas les voir. Et quand on va les mettre en évidence, là, on va dire le modèle, ça va valider l'ensemble du modèle. C'est un peu ce qu'on a vu avec le boson de Higgs. Et à partir de là, l'affaire va échapper complètement au milieu scientifique. Les politiques vont s'en mêler. Louis XIV impose l'enseignement de la circulation du sang selon les nouvelles découvertes. Et Molière va les réutiliser dans Le Malade.
Ce genre de soutien, c'est pas trop mal quand même. Quand Louis XIV et Molière vous soutiennent dans votre théorie, c'est plutôt robuste. Est-ce que cette découverte, qui d'un point de vue physiologique est une révolution, est aussi une révolution médicale immédiate? Est-ce que ça a un effet sur les gens qui souffrent du cœur au XVIIe siècle?
Oui, alors, c'est comme on l'a dit, c'est à la base de la cardiologie moderne, mais à l'époque, au XVIIe siècle, pour les malades, n'a pas apporté grand-chose, parce que les médecins contemporains d'Harvey n'ont pas pu exploiter cette découverte au service des patients, car il leur manquait trois éléments importants. Il leur manquait la connaissance des pathologies cardiovasculaires, qu'on va décrire à partir du XVIIIe siècle grâce à la méthode anatomoclinique mise au point par l'Italien Morgagni. Il manquait l'examen clinique en cardiologie qui va être mis en place au début du XIXe siècle grâce à l'école de Paris. Jusque-là, l'examen clinique se résumait à la prise du pouls, à la palpation de la paroi abdominale et à l'examen des urines. Donc le cœur, les poumons échappaient complètement, qui étaient dans la cage thoracique, échappaient complètement aux mains des médecins. Et c'est le baron Corvisart qui met en place la technique de la palpation et la percussion thoracique qu'elle a pris un autrichien, et Laennec, celle de l'auscultation. Et malgré ça, on arrive au milieu du XXe siècle, dans les années 1950, où malgré tout ce savoir cumulé, on continue à mourir du cœur, comme au Moyen-Âge, comme dans l'Antiquité, on meurt seulement en connaissant le nom de sa maladie. Et c'est grâce à nos maîtres que va démarrer cette révolution thérapeutique qu'on vit encore aujourd'hui et qui va réduire d'une façon spectaculaire la mortalité cardiovasculaire.
Merci beaucoup à vous, François Boustany, d'être venu nous raconter cette histoire de la découverte et de la compréhension de la circulation sanguine et du rôle du cœur dans cette circulation.
Merci à vous.
One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had
Par José González dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir parlé du rôle du cœur dans la circulation sanguine, on va parler d'un sujet au cœur de nombreuses discussions en archéologie, et ce depuis des décennies.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
La question de la place et du rôle des femmes à la préhistoire sont au cœur de discussions scientifiques intenses depuis des années, discussions largement alimentées par les débats contemporains sur l'égalité. Comme le dit l'historienne Michel Perrault, au théâtre de la mémoire, les femmes sont ombre légère. Fin de citation. Rendues discrètes, voire invisibles en partie à cause d'une vision de l'histoire et de l'archéologie centrée sur les hommes. Dans son dernier livre, notre invité du jour refuse cependant les récits plaisants d'un âge d'or matriarcal suivi d'une chute brutale au néolithique. En s'appuyant sur l'archéologie du genre, elle cherche les racines matérielles de la domination masculine du paléolithique moyen à la fin du néolithique dans un compte-rendu rigoureux fondé sur l'étude des traces matérielles. De cette enquête, il ressort entre autres que le monopole des armes ou le contrôle social de la reproduction ont façonné le destin des femmes bien avant l'invention de l'agriculture. Comment l'archéologie du genre, mais aussi la paléoanthropologie ou encore la paléogénomique, nous permettent-elles progressivement de remonter aux origines préhistoriques de la domination masculine ? Nous plongeons aujourd'hui dans le temps profond pour combler le vide de nos connaissances sur la place des femmes à la préhistoire et ainsi mieux comprendre notre présent. Et notre chef de plongée aujourd'hui, c'est vous, Anne Augereau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes préhistorienne, archéologue à l'INRAP. Vous êtes l'autrice du livre « Une préhistoire des femmes » paru aux éditions La Découverte. Vous avez également écrit avec Christophe Darmanja le livre « Aux origines du genre » paru aux presses universitaires de France. Et vous êtes également l'autrice de « Femmes néolithiques, le genre dans les premières sociétés agricoles » aux éditions du CNRS. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à parler de ce sujet très complexe. Vous êtes, je le disais à l'instant, en parlant de ce titre « Femmes néolithiques », spécialiste du néolithique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous aventurer en amont du néolithique pour comprendre l'origine du patriarcat ?
Parce qu'on pense souvent, et il y a un certain nombre de publications, qu'elles soient en direction du grand public ou même des publications plus spécialisées, qui affirment que le patriarcat, la domination masculine, se met véritablement en place au néolithique et qu'avant, pendant les périodes où les chasseurs-cueilleurs dominaient, eh bien, il n'y avait pas de domination masculine. Il y avait une égalité entre les sexes qui faisait que les femmes étaient les égales des hommes. Et du coup, je me suis interrogée là-dessus en me disant quelles étaient les données archéologiques qui permettaient d'affirmer ce type de récit. Et je me suis donné les moyens d'investiguer la domination masculine dans les populations antérieures au néolithique pour essayer de répondre à la question.
Les bornes chronologiques de votre enquête sont larges, ça va de moins 300 000 ans à moins 4200 ans. Quelles sont les raisons de ce choix de bande temporelle ? Qu'est-ce que ça vous permet de faire concrètement ?
Alors concrètement, ça permet d'englober une ère chronologique assez vaste. Et c'est important d'avoir ce recul chronologique parce qu'en préhistoire, on n'a pas beaucoup d'informations. Et je pense qu'on a intérêt à regarder les choses dans la continuité du temps pour essayer d'en faire sortir un certain nombre de traits constants ou non constant justement, mais on a besoin de profondeur historique et préhistorique, donc, puisqu'il s'agit de préhistoire, pour comprendre comment les sociétés étaient organisées dans ces temps très éloignés.
Les difficultés doivent être nombreuses à mener une archéologie du genre à la préhistoire. Quels sont les principales difficultés à surmonter quand on se lance dans cette entreprise ?
Alors, les écueils, c'est, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données. Mmh. On a surtout des silex taillés, quelques os, quelques squelettes provenant de sépultures, des traces d'habitat, mais on n'a pas d'écriture. Et donc, c'est à partir de ces traces un peu évanescentes qu'il faut essayer de reconstituer la vie à l'époque, et notamment les relations entre les hommes et les femmes, qui sont un sujet extrêmement difficile à aborder. Mais on a une chance, entre guillemets, nous, en tant que préhistoriens, c'est que lorsque l'on regarde comment les relations entre hommes et femmes se font dans l'époque actuelle, eh bien, on s'aperçoit que le genre, en fait, il doit se matérialiser. Il se matérialise dans les vêtements, il se matérialise dans les espaces. Il y a des espaces plutôt masculins, plutôt féminins. Il se matérialise aussi dans les activités des hommes et des femmes, des métiers d'hommes, des métiers de femmes. Bon, même si tout ça est encore, est en train de disparaître peu à peu, il reste quand même de grands vestiges des différences hommes-femmes sur ces aspects matériels. Et donc, la matérialité, c'est la chose qui nous parvient de l'archéologie et de la préhistoire. C'est vraiment des vestiges matériels qu'il nous faut étudier et interpréter.
Je le disais en introduction de cette émission, le sujet de la place des femmes à la préhistoire n'a pas toujours été un sujet pour les études en préhistoire. Comment expliquer cette invisibilité des femmes dans cette enquête scientifique?
Alors, l'invisibilité des femmes, elle est, ça a été dit et redit par certaines de mes collègues. Elle provient un petit peu de biais que nous avons eu et que nous avons encore, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait plus de biais du tout aujourd'hui. Mais en tout cas, pendant une longue période, les préhistoriens ont été entachés, entre guillemets, la pensée des préhistoriens a été sans doute entachée de biais patriarcaux, et du coup, on avait tendance aussi à projeter dans les sociétés du passé une organisation qu'on observait tous les jours autour de soi dans la société. Donc effectivement, c'est plutôt l'homme chasseur, on parlait beaucoup de l'homme préhistorique qui chasse, qui taille le silex, qui peint les murs des cavernes, enfin les parois des cavernes, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup pensé aux femmes dans cette description générale.
Et l'archéologie du genre s'emploie justement depuis les années 70 à corriger ce manque. Ça conduit aussi cette archéologie. Alors peut-être qu'on peut définir ce qu'est cette archéologie du genre, parce que dès qu'on parle de théorie du genre, archéologie du genre, on fait un peu des confusions et on dit tout de suite, c'est pas de la science, c'est militant de parler de genre. Alors expliquez-nous justement quel cadre scientifique pose l'archéologie du genre.
Alors l'archéologie du genre pose un cadre scientifique qui consiste à avoir une bonne connaissance sur comment se passent les relations entre les hommes et les femmes dans les sociétés qu'on peut observer ou les sociétés où il y a des textes. Et il y a tout un tas de leviers de la domination masculine, de leviers de caractéristiques de relations entre les sexes qui peuvent être relevés et qui permettent de comprendre comment s'articulent les relations de genre entre les hommes et les femmes dans différents milieux. Et il y a un certain nombre de leviers qui ont été mis en évidence. Je peux en citer quelques-uns et j'en ai cité quelques-uns il y a à l'instant. C'est que les hommes et les femmes ne s'habillent pas de la même manière. Et bien souvent, dans beaucoup de cultures, le vêtement des femmes est un vêtement qui les entrave contrairement aux vêtements des hommes, par exemple. Ça, c'est un exemple. Et donc, il convient de se poser la question si en préhistoire, dans la préhistoire, il y avait un vêtement spécifiquement masculin ou féminin. Il y a aussi des habitudes alimentaires qui diffèrent. De nos jours, les femmes mangent moins de viande que les hommes. Et on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi c'est comme ça et si ça a été toujours de cette manière-là dans le temps passé. Que dire d'autre ? Il y a aussi des âges au mariage qui sont assez constants. La femme, elle est souvent bien plus jeune que l'homme qu'elle épouse. Donc ça, c'est vraiment une constante qu'on a encore de nos jours. Bon, il y a tous ces aspects-là qui se renvoient et qui sont des leviers qui peuvent être des leviers de la domination masculine envers les femmes.
Donc ça, c'est pour le cadre théorique qu'on pose finalement l'archéologie du genre. Cette archéologie du genre, elle a conduit aussi à des théories que vous déconstruisez, ou en tout cas que vous critiquez dans votre ouvrage, qui font finalement plutôt référence à des mythes ou à des espoirs qu'à des réalités concrètes. Expliquez-nous un petit peu comment cette archéologie du genre a pu conduire à des interprétations qui sont erronées.
Alors, il y a, comment dirais-je, un trait qui est un peu gênant, c'est comme ça, quoi. Il faut en tenir compte. C'est le fait que l'on a souvent imaginé, en tout cas à partir des années 60-70, hein, pour faire court, on a imaginé le mythe d'un matriarcat primitif qui aurait régné durant la préhistoire, dans le néolithique, et qui aurait été mise à mal à la fin du néolithique par des invasions venues des steppes pontiques. Donc, il y a cet aspect-là qui a été extrêmement prégnant, mais qui n'est fondé que sur des données disparates. C'est l'archéologue Maria Gimbutas qui a beaucoup développé cette théorie et qui se fonde sur des signes que l'on peut relever sur la céramique, des ondulations, des triangles. Ça, elle se fonde aussi sur la présence de petites statuettes qui sont effectivement essentiellement féminines. Et l'ensemble de ces informations qu'elle a recueillies, lui ont fait dire que lors de la préhistoire, il y avait certainement des sociétés plus égalitaires entre les hommes et les femmes, et d'autre part, une religion fondée sur la déesse mère. Mais ça a été démenti de multiples fois par le passé, parce que les données sur lesquelles elles se fondent sont extrêmement disparates, elles sont mal interprétées, elles proviennent de contextes extrêmement variés, et on peut pas dire que, par exemple, les zigzags, c'est l'eau de la déesse dans son épiphanie sur la vie ou sur la Renaissance. Donc, c'est une interprétation, comment dirais-je, qui va au-delà des données et qui est tout à fait fausse.
Si on peut du coup pas se fier justement à ce type d'indice, puisque c'est vrai que quand on pense au paléolithique, on se dit c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de statuettes qui représentent des femmes, sur les parois des grottes il y a des sexes de femmes qui sont gravés, donc on se dit les femmes devaient avoir une place importante, ça devait correspondre justement comme vous le disiez à ce culte de la déesse mère. Si on écarte ça en se disant finalement c'est vrai que si on regarde au 19e siècle il y avait beaucoup de femmes peintes nues et pour autant elles n'étaient pas plus libres ni plus respectées, donc mettons ça de côté. Quelles sont les traces vraiment probantes qui vont vous permettre à vous, en tant qu'archéologue, de mener cette enquête pour comprendre l'origine de la domination masculine à la préhistoire?
Alors, les traces sont de plusieurs ordres. Si on veut documenter, par exemple, les activités des hommes et des femmes, il y a des informations qui peuvent être recueillies sur la forme des os, des squelettes que l'on retrouve dans les sépultures, puisque lorsque l'on réalise une activité suffisamment longtemps et suffisamment intensément, il y a des modifications osseuses qui apparaissent. L'os est un organe vivant, si on peut appeler ça comme ça. Donc, il y a des modifications osseuses, des attaches musculaires qui vont se transformer, qui vont se renforcer. Il y a aussi des pathologies osseuses. Et lorsque l'on regarde tout ça chez les hommes et chez les femmes préhistoriques, on s'aperçoit que hommes et femmes n'ont pas tout à fait les mêmes traces osseuses. Donc, et les hommes se caractérisent par une surutilisation de leur bras droit. D'une part, et d'autre part par des pathologies osseuses au niveau du coude qui peuvent résulter d'un geste de lancer répété au-dessus de la tête. Et donc les interprétations vont vers le fait que ces hommes ont pu lancer des sagaies avec ou sans propulseur, etc. Et les femmes n'ont jamais cette trace au niveau de leur coude droit, elles en ont d'autres mais elles n'ont pas ça. Et elles ont aussi des activités plus bimanuelles que les hommes, qu'on a pour le moment un peu de mal à caractériser. Et on a du mal à émettre des hypothèses sur quelles étaient ces activités bimanuelles, mais en tout cas...
Les hypothèses à nos jours?
Alors, les hypothèses, ça peut être pour le néolithique, puisque c'est le cas pour le néolithique, mais pas seulement. C'est plus facile parce que c'est le début de l'agriculture, de l'élevage, de la culture du blé. Et donc, qui dit culture du blé, dit fabrication de farine. Et on connaît des meules à bras du néolithique qui ont pu être utilisées, qui ont été utilisées pour moudre les grains de blé pour faire de la farine. Et ces meules à bras se manipulent à deux bras. Et c'est vrai que lorsque l'on a beaucoup de, qu'on réalise cette activité extrêmement fréquemment, ça peut modifier les bras des femmes qui étaient particulièrement musclées au néolithique.
On a parlé du fait qu'il y ait peu de vestiges finalement de registres fossiles et assez lacunaires pour quand on monte dans le paléolithique. Là, on parle d'adultes. On n'a pas parlé des enfants. Ça aussi, c'est une question vertigineuse de se poser la question. Est-ce que dès le paléolithique, il y avait une distinction genrée finalement? Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles on a des réponses déjà?
Alors, on n'a pas beaucoup de réponses. L'archéologie de l'enfance, c'est très compliqué pour une simple raison. Enfin, quand on la traite en termes de genre, c'est que il est difficile, il est plus difficile de déterminer le sexe des enfants que des adultes. C'est-à-dire que le bassin, c'est principalement le bassin qui sert à déterminer le sexe, et ces conformations féminines et masculines n'apparaissent qu'à vers l'âge de 16 ou 17 ans. Donc on a beaucoup d'enfants, il y a des enfants qui ont été enterrés et on en connaît un certain nombre, mais on a du mal à leur attribuer un sexe. Donc l'archéologie de l'enfance, si l'on veut véritablement travailler sur les individus, c'est un peu compliqué. Mais il y a un certain nombre d'autres données qui peuvent être envisagées. Par exemple, on a pour le paléolithique moyen et récent, des armes miniatures. On a des petits propulseurs, c'est des instruments qui servent à propulser la sagaie et qui permettent de démultiplier la vitesse du projectile. On en a des grands pour les adultes, puis on en a des tout petits. Et on s'est demandé s'il ne s'agissait pas de jouets pour enfants et du coup peut-être d'enfants masculins. Mais la deuxième partie de la proposition sur les enfants masculins, pour le moment, elle est totalement hypothétique.
Donc l'enfance, c'est encore une zone à explorer largement. Si on se déplace vers l'adolescence, le jeune âge adulte, la préhistoire, on imagine qu'on rentrait finalement d'une certaine façon dans la vie adulte plus tôt, puisque l'espérance de vie était plus courte. Intervient ce moment de la puberté et donc se pose la question de la maternité. Là aussi, comment on se pose la question en tant qu'archéologue du genre de cette importance de la maternité dans la domination masculine, dans la genèse du patriarcat?
Alors, la maternité, c'est un fondement biologique qui s'ancre dans l'évolution biologique. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les femmes ont la capacité de faire des enfants et les hommes n'ont pas cette capacité, en tout cas, de les nourrir dans leur sein. Donc, cette capacité de procréation, c'est un levier de la domination masculine qui a été constaté dans pratiquement toutes les sociétés humaines. On cherche à contrôler le corps des femmes pour assurer la pérennité de l'espèce et la reproduction de l'espèce. Et ce fait-là, il est constaté également en préhistoire, c'est-à-dire qu'on va pour profiter de toute la période de fécondité des femmes, les marier très jeunes, plus jeunes que les maris avec lesquels...
Vous le disiez tout à l'heure, 4 à 9 ans en général.
Oui, 4 à 9 ans en général.
Plutôt
que les hommes. Et ce fait-là, on le constate en préhistoire sur 250 000 ans, puisque grâce à la génétique, on arrive à tracer un certain nombre de modifications, de variants génétiques. Et ces variants génétiques nous indiquent qu'en moyenne, sur toute cette période-là, les femmes ont des enfants plus tôt, 4 à 9 ans plus tôt que les hommes, et donc ont été certainement intégrées au mariage plus tôt que leurs compagnons.
Vous parliez donc tout à l'heure, Anne Augereau, du fait que les hommes manipulent les armes létales. Là, grâce à la paléogénétique, on se rend compte que les femmes enfantent plus tôt, ou en tout cas, sont mariées plus tôt que les hommes. On voit donc une maîtrise de la violence par les hommes, une maîtrise du corps, finalement, des hommes par les hommes. Il y a aussi la question du pouvoir qui se pose et de comment on interprète finalement tous ces ornements symboliques qu'on retrouve dans les sépultures. Est-ce que là aussi, le pouvoir politique, entre guillemets, est le privilège des hommes depuis des temps très anciens.
Alors, je vais rajouter quelque chose sur les aspects de mariage et de maternité. Mmh. Il y a aussi une donnée extrêmement constante, c'est que les femmes se déplacent pour se marier, c'est-à-dire qu'on a affaire à des mariages patrilocaux pour l'essentiel. Il y a aussi d'autres systèmes, mais en tout cas, de manière plutôt majoritaire, quasiment toutes les études sur la préhistoire montrent que ce sont les femmes qui se sont déplacées plus que les hommes pour se marier, notamment, et sans doute pour se marier. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental et qui est vraiment un levier extrêmement important de la domination masculine, puisque avec le monopole des armes létales, le monopole des armes létales permet aux hommes d'avoir un poids politique dans les négociations avec d'autres communautés. Et dans ces négociations, hein, qui ont été constatées notamment par Lévi-Strauss, hein, c'est la circulation des femmes, etc., l'un des éléments de la négociation peut être la femme, une femme que l'on peut proposer au mariage à son allié ou au contraire pour sceller une paix ou un épisode plus calme pour remettre la société dans le calme par rapport à ce qui a pu se passer avant. Donc la manipulation des armes létales qui semble être pour la préhistoire un monopole masculin. Et le déplacement plus fréquent des femmes, à mon avis, c'est deux éléments qui indiquent que durant la préhistoire, la domination masculine était déjà un fait assez répandu.
Donc du coup, là, on a vraiment une genèse, une généalogie de cette domination masculine qui remonte donc bien au-delà du néolithique. On parle donc de cette maîtrise du corps, de cette maîtrise du pouvoir. On a évoqué la division des tâches, la division du travail. Est-ce que ça, pour le coup, la division du travail, c'est vraiment un signe aussi d'une domination masculine? Je crois que tous les anthropologues ne sont pas forcément d'accord. Ouais. Un certain Alain Testard lui disait non, il ne faut pas du tout confondre les deux. Vous, quel est votre point de vue sur cette question?
Alors, mon point de vue, c'est que, en tout cas pour la préhistoire, on arrive à bien déterminer quelles étaient une partie des activités masculines, et c'est vrai que les indices vont vers la manipulation des armes létales pour la chasse et probablement aussi pour la guerre. Pour les femmes, c'est un peu plus, on en parlait tout à l'heure, pour les femmes c'est un peu plus compliqué, on a moins d'informations, mais ceci dit, quand on en a, on peut penser que les femmes n'ont pas du tout accompli les mêmes tâches, enfin pas du tout, dans certains cas, n'ont pas accompli les mêmes tâches que les hommes. Ça se voit encore une fois par un certain nombre de modifications osseuses, dont je parlais tout à l'heure, qui affectent les bras, mais aussi qui affectent les jambes, les os des jambes. C'est-à-dire que de manière assez constante, on voit que les hommes préhistoriques, néandertal, paléolithique récent, mésolithique et néolithique, ont des musculatures sur leurs jambes qui sont plus importantes que les femmes.
Et pourtant, donc, les femmes étaient des athlètes, hein,
faut le dire. Alors là, je vais le dire. Les femmes étaient des athlètes, et les athlètes, quand on était dans des milieux aussi difficiles que les milieux glaciaires au paléolithique moyen et récent, il fallait être quand même de constitution assez robuste. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que les femmes se sont donc moins déplacés que les hommes. En moyenne, hein, évidemment, il y en a qui courent partout et d'autres qui sont moins mobiles. Mais quoi qu'il en soit, il y a véritablement une différence dans les déplacements entre les hommes et les femmes tout au long de la préhistoire. Donc, leur aire d'activité était plus restreint que les hommes. Et ça, c'est vrai aussi bien pour les chasseurs-cueilleurs nomades que pour les agriculteurs.
Alors, on a parlé aussi de ce pouvoir. Moi, je me pose la question, parce qu'il y a quand même certaines sépultures qui nous disent qu'on a affaire à des femmes d'élite, à des femmes de pouvoir. Ça, comment on l'interprète? Est-ce que c'est des exceptions qui confirment la règle? Voilà.
Alors, on a des femmes qui ne sont pas dans les normes. classique que l'on constate sur l'ensemble de la population féminine d'une période. On a par exemple des femmes qui, dans leur tombe, ont des armes de chasse, qui semblent avoir, dans certains cas, pratiqué peut-être le tir au propulseur ou le tir de sagaie sans propulseur. Donc on a des femmes qui ont été, qui sortent un peu de l'ordinaire. Mmh. Et toute la question, c'est de les interpréter. Pourquoi elles ne sont pas, elles n'ont pas un mode de vie, en tout cas des activités qui sont identiques à l'ensemble des autres. Est-ce qu'il s'agit de chasseuses et de guerrières à temps complet ou en tout cas dans une bonne partie du temps comme l'étaient les hommes, ou est-ce que c'est autre chose? Et on doit absolument se poser la question et ne pas tout de suite bille en tête se dire ce sont des chasseuses et ce sont des guerrières à l'égal des hommes. À partir du moment où la majorité n'est pas dans ce cas de figure de manipulation d'armes de l'État, de la majorité des femmes, il est indispensable de se poser la question de pourquoi il y en a quelques-unes qui sont différentes. J'ai parlé, et ça fait bondir un certain nombre d'auditeurs, j'ai parlé une fois de troisième genre. Mais le troisième genre, c'est un constat qui a été répété à plusieurs reprises et qui est extrêmement courant dans les données anthropologiques. C'est-à-dire qu'il y a quelques femmes, parfois ce sont des hommes, il y a quelques femmes qui sont autorisées à vivre comme des hommes. C'est le cas, par exemple, très proche de nous, des vierges jurées d'Albanie qui sont autorisées par les hommes, parce qu'elles n'en prennent pas l'initiative tout de suite, toutes seules, je veux dire, à vivre véritablement comme des hommes, à fumer, à boire, à chasser, à à conduire des camions, etc. Donc, ce sont des femmes hommes. Mais encore une fois, c'est un exemple de troisième genre. Mmh. C'est un exemple de troisième genre. Elles sont biologiquement femmes, mais elles sont autorisées à se comporter comme des hommes.
Anne Augereau, si on fait le bilan, on a dit que les femmes circulent plus à la préhistoire du fait d'échanges entre groupes. On a dit que la maternité était une constante, qui les assignait d'une certaine façon à une forme d'immobilité pendant au moins un temps, qu'il y avait une division du travail qui existait depuis la préhistoire, que l'usage des armes létales étaient réservées aux hommes et que ça avait un rôle à jouer dans l'exercice du pouvoir. On comprend donc que cette domination masculine est ancrée dans la nuit des temps, entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à dire que c'est finalement que la domination masculine et que le patriarcat est une norme, est une règle et que à quoi bon s'y opposer finalement?
Alors, surtout pas. Il ne faut surtout pas se dire ça parce qu'effectivement, cet état de fait, il semble en tout cas très ancien. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est ancien, il est indépassable. Il y a tout un tas de choses que l'on a dépassées, ne serait-ce que des traits biologiques qui nous sont propres. On a maintenant la possibilité, nous les femmes, de choisir ou non d'avoir des enfants, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une fatalité d'avoir des enfants ou pas. Et ça, c'est fondamental. Et ça lève le carcan, entre guillemets, de l'ancrage biologique de la condition des femmes. Parce que c'est quand même un ancrage biologique. Donc, on peut dépasser ça. On a aussi, en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, maintenant la faculté de voler, ce qui n'était pas du tout dans notre constitution.
De voler dans les airs.
Oui, dans les airs.
Parce que voler, ça on sait faire.
Voler aussi dans les magasins, et d'ailleurs on le fait.
En tout cas, merci beaucoup, Anne Augereau. On va finir sur cette note un peu comique, mais une préhistoire des femmes. Donc, c'est le titre de votre enquête passionnante parue aux éditions La Découverte. On comprend aussi qu'il y a encore plein de travaux à conduire dans cette archéologie du genre pour explorer cette histoire de la domination masculine. Merci encore d'être venu en parler.
Merci à vous.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Éric Perruchot-Triboulet aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.